également la convergence des forces étrangères, mais également la présence de l'armée malienne. C'est là-bas que les terroristes sont traqués, c'est là-bas qu'ils sont souvent anéantis, c'est là-bas également qu'ils sont arrêtés et envoyés en prison à Bamako. Et si, après quelques mois, quelques années de détention dans la capitale malienne, ils refont le même chemin, cette fois-ci libre, pour revenir à Tessalit et être essaimés dans la nature, vous comprenez que pour ces Maliens-là, c'est un éternel recommencement parce qu'ils vont venir attaquer également, poser des engins explosifs improvisés, on va les mater. Donc c'est un peu comme le serpent qui se mord la queue. En revanche, pour d'autres Maliens, la libération de Soumaïla Cissé était un ouf de soulagement parce qu'ils pensaient que le Mali avait été humilié à travers cet enlèvement parce que dans la présence protocolaire du Mali, Soumaïla Cissé n'est pas n'importe qui, c'est le chef de file de
l'opposition. Ouais.
Il a été enlevé au moment où il battait campagne. Donc pour beaucoup de Maliens, le pays avait été humilié. C'est comme si un ministre ou d'autres représentants des institutions avaient été enlevés pour montrer la fragilité, toute la fragilité de l'État malien. Donc, ils voient en cette libération un ouf de soulagement.
Effectivement, Soumaïla Cissé, quand même, son enlèvement était assez spectaculaire. Moussa Kondo, certains estiment que c'était quand même un prix lourd à payer. On parle de 100 à 200 djihadistes ou présumés djihadistes qui ont été libérés. Bon, certainement, quand on est proche de Soumaïla Cissé et des autres otages, on voit les choses différemment. Et pour vous, comment est-ce que vous voyez cet échange de prisonniers, si on peut le dire ainsi?
Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui nous écoutent. Pour moi, mon frère Sekou vient de l'expliquer, ça dépend de quel bord on se retrouve. Mais quand on fait un regard depuis, comme on dit, depuis le balcon, pour voir les deux côtés, on se retrouve dans une situation très inconfortable. Dans le sens que depuis deux jours déjà, on commence à avoir plus d'informations sur le profil de certains terroristes qui ont été libérés à travers cet échange. Donc, on parle pratiquement de 25 à 30 terroristes vraiment importants dans les dispositifs des groupes armés et surtout des mouvements terroristes sur le terrain. Donc, qu'est-ce qui peut être la force, qu'est-ce qui peut être le retour de ces 20 ou 30 hommes forts du système ou de la logistique? C'est ça une question aussi. Et comme il a dit, c'est une question de l'éternel recommencement. Aujourd'hui, nous avions pu avoir, et là on comprend pourquoi la libération certainement avait dû prendre du temps sous le régime Ibeka que nous avons traité pratiquement de beaucoup. Non, parce que quand on met les deux poids sur l'équilibre, voir est-ce qu'on va vers la libération de des otages détenus, est-ce qu'on libère les 230 comme c'est un nom officiel, 230 terroristes libérés plus près de dizaines de millions d'euros déboursés. La question est-ce qu'on est prêt à aller à ce niveau pour obtenir ce qu'on veut? Parce que demain, en fait, quelle sera la logistique de ces groupes armés par rapport à nos armées, par rapport à la réalité sur le terrain?
Oui, Marc-André, c'est vrai que la question de la rançon a été évoquée, mais peut-être qu'on n'aura jamais une réponse claire. Quel est votre avis sur la question? Et aussi, quand la France dit qu'elle n'a pas joué un rôle primaire, mais plutôt un rôle secondaire, comment est-ce que vous interprétez tout cela?
Il faut voir que ces négociations-là n'ont pas commencé avec la junte, que c'est un long processus de négociation et que tous les acteurs étaient au courant. Il y a eu une intervention de plusieurs personnes, notamment des autorités françaises, qui parlaient d'une connaissance, d'être connaissant de ces négociations-là, sans que la France ait reconnu un rôle. Je pense que ce qui est important de garder en tête, comme je dis, c'est que c'est un long processus qui a abouti. Mais il faut surtout voir que dans ces libérations-là, on met beaucoup l'accent sur les quelques gros noms qui sont sortis, c'est ce que les médias ont sorti, mais dans les 200 qui sont sortis, il y avait beaucoup de jeunes personnes qui ont nécessairement, dont plusieurs n'avaient aucun dossier. Toute tentative de d'amener ça devant la justice aurait échoué de toute façon. Et c'est là justement où est-ce que ça permet d'avoir une, c'est un pas positif. Il faut voir aussi que qui est fait, c'est que visiblement on s'en va vers la possibilité d'avoir un nouveau dialogue, alors que dans les derniers mois, on voyait très bien qu'il n'y avait plus de dialogue possible.
On pourra revenir sur ça, mais sur cette question précise des rançons, vous avez une lecture sur ça ou peut-être un mot?
Premièrement, il reste à voir où ces rançons, à qui ces rançons-là vont être payées, comment ça va revenir. Pour moi, et surtout le plus important, c'est qui a déboursé. Toutes ces questions-là, on se les pose présentement et c'est pas très
clair. Vous pensez que c'est plausible, hein? Ou bien c'est peut-être...
Il faut voir. Moi, personnellement...
Personne ne va reconnaître avoir payé une rançon de toute façon.
Ben, comme ça s'est fait pour les négociations précédentes, quand il y a eu une rançon qui a été payée, on a réalisé qu'il y avait plusieurs émissaires qui se mêlaient au processus. Et ça jamais... Il y a beaucoup de clarité, disons, par rapport à cet aspect-là.
D'accord. C'est cool. Pour vous, les groupes djihadistes ou les groupes armés en sortent-ils renforcés ou pas?
Moi, je pense qu'ils sortent renforcés sur trois points, trois principaux points. Le premier, c'est en termes de régénération, parce qu'on parle de 10 à 15 millions d'euros. Ça, c'est le premier dividende qui tire de cette libération. Le deuxième, c'est d'un point de vue ancrage social, hein, parce qu'on a appris qu'au niveau de certains hameaux où des jeunes avaient été libérés, les groupes terroristes sont venus communiquer pour dire « Bon, écoutez, vos enfants étaient en prison à Bamako, nous sommes parvenus à les libérer et peut-être ça les renforce d'un point de vue ancrage social au niveau des hameaux ». Et le troisième dividende les groupes tirent, notamment le groupe pour le soutien à l'islam et aux musulmans, c'est un peu cette bataille de suprématie qui livrait avec Daesh qui évolue, lui, au niveau de la zone des trois frontières, le Liptako-Gourma, c'est-à-dire la frontière Burkina Faso, Mali et Niger. Donc moi, je pense personnellement que le GSIM tire ses trois dividendes. Ils sortent renforcés d'un point de vue logistique avec de l'argent. Ils ont également un gain en termes d'ancrage social. Demain, on ne sera pas surpris s'ils parviennent à faire beaucoup d'autres recrutements. Et en termes d'aura, de bataille de leadership, ils montent un tout petit peu d'un cran par rapport à l'État islamiste qui est au niveau de la zone des trois frontières.
En tout cas, le groupe dirigé par Yala Galig, effectivement, semble avoir profité, en tout cas, énormément de cette opération. Moussa Kondo, faut-il poser le problème en termes de gagnants et de perdants dans cette affaire?
Je crois que pas vraiment, parce que du moment que nous avons pu ramener des vies humaines à la maison, ça c'est une victoire de ce côté. Mais sur quel prix? Et est-ce l'important pour nous de se poser la question en termes de sacrifices ou de prix à payer par rapport à ce qu'on a fait? Donc je crois que sur ce point, on peut pas dire qu'il y a eu des gagnants et des perdants, mais qu'est-ce qu'on aurait pu faire de mieux pour récupérer ces vies humaines-là sans réellement de mettre encore le processus de paix?
Faut-il négocier avec les groupes armés?
Je crois que la situation du Mali aujourd'hui, vu la complexité et la différence et aussi les acteurs, il y a certaines franges quand même qui est important de négocier avec eux. Parce que d'autres, qu'on le veuille ou pas, ils ne seront jamais autour d'une table de négociation. Parce que ce qu'ils revendiquent, ça n'a rien à voir avec la paix, ça n'a rien à voir avec la religion. Pour eux, c'est le business pur et simple. S'ils arrêtent le business, ils vont disparaître. Donc pour eux, il n'y a aucune négociation possible. Mais les franges qui se battent pour autre chose, sur lesquelles il peut y avoir des points de convergence avec l'État du Mali ou avec les partenaires du Mali d'une manière générale, je crois que ça peut ouvrir, c'est peut-être une opportunité de commencer le dialogue avec eux et maintenant de voir comment trouver une solution aux autres qui ne seront jamais pour une négociation possible.
Marc-André, et vous, le dialogue avec les groupes armés, ça dépend de quel groupe peut-être, non?
Évidemment, ça dépend de quel groupe, mais moi je vais revenir sur ce que je connais plus, sur les forces armées maliennes. Et avec les discussions que j'ai eues, échangées avec les différents partenaires sur le terrain, avec les soldats et les militaires sur le terrain, moi ce qui m'inquiétait, c'est que cette libération d'otages entraîne une baisse du moral pour combattre. Étonnamment, à force de parler aux gens, il y a comme une forme d'indifférence. Et le point où ce que ça amène, c'est que ça fait quand même plusieurs années que les soldats maliens luttent contre les djihadistes. Et ce revirement de situation au moins permet d'entamer un nouveau dialogue et permet pour eux du moins de commencer à voir un peu la lumière au bout du tunnel du fait que maintenant il y a tous ces combats-là, ils sont victimes au quotidien des attaques et il y avait, jusqu'à tout récemment il y avait peu de changements et cette donnée-là entraîne un possible changement, peut-être un peu d'espoir pour eux. Bon, pour moi c'est déjà une dividende assez importante, pour le reste il va falloir voir à long terme quels seront l'impact. Et si réellement il va avoir des avancées ou sinon ça va être juste une recrudescence et que ça ne va pas renforcer certains gros djihadistes par rapport à d'autres pour finalement revenir encore plus en force contre l'État malien.
D'accord. En tout cas, nous avons des réactions de téléspectateurs sur la page Facebook de VOA Afrique. Christian Djerabé Ndjamena écrit « L'échange des otages contre les prisonniers djihadistes renforce plutôt les terroristes. Cela n'ouvrira jamais la voie au dialogue entre Bamako et ses groupes. » Aruna Baldé à Dakar nous dit que l'échange est inéquitable, sachant que les djihadistes ne comptent pas déposer les armes. Mais si cela peut donner un nouveau souffle au dialogue pour un retour à la paix, alors c'est une bonne chose. Et puis Hassan Boulalé à Djibouti, il nous dit qu'il pense que le terrorisme international doit être réglé par le dialogue, la lutte contre la pauvreté et contre le financement du terrorisme. La lutte contre le terrorisme n'est pas que militaire. Voilà, donc quelques réactions. Merci de rester fidèle à VOA Afrique. Washington Forum revient après une courte pause. Seconde partie de Washington Forum. Je rappelle nos trois invités. Nous avons Sékou Tangara, journaliste à Africable Télévision du Mali, présentement à Zérékoré en Guinée. Dans l'état de Washington, précisément dans la ville de Spokane, Moussa Kondo, directeur Mali de l'ONG Accountability Lab, et dans la capitale fédérale américaine, ici donc à Washington, Marc-André Boisvert, chercheur sur les questions sécuritaires maliennes. Je démarre cette seconde partie avec vous, Sékou Tangara. Les nouvelles autorités maliennes, les nouvelles autorités de la transition héritent d'une situation compliquée au centre et dans le nord du pays, mais elles ne la méconnaissent pas. Comment est-ce qu'elles peuvent approcher cette crise sécuritaire différemment?
Je pense qu'il y a comme un signe du destin. Il y a une occasion à saisir ou jamais. Si vous remarquez, il y a une combinaison de faits qui sont là. D'abord, pour la première fois, on a les signataires de l'accord pour la paix et la réconciliation issus du processus d'Alger qui entrent dans le gouvernement. Il y a la plateforme, il y a la coordination des mouvements de l'Azawad qui, à un moment, avait des vérités sécessionnistes. Mais aujourd'hui, ils sont là pour la reconstruction du Mali. Au même moment, entre Maliens, on parvient à créer une dynamique locale qui va aboutir à la libération non seulement du chef de file de l'opposition, mais de trois autres otages occidentaux. Ça veut dire que souvent dans la crise, il peut y avoir l'opportunité. L'enlèvement puis la libération de Soumaïla Cissé doit être une opportunité. Et si on revient un tout petit peu sur l'interview que Soumaïla Cissé lui-même a accordée juste après sa libération, il a laissé entendre que lui, ses ravisseurs, par exemple, ils avaient 15-18 ans, c'était des jeunes, d'où la nécessité pour le Mali de tenir compte un peu de l'échec social dans les régions de Mopti, Tombouctou, Gao. Il a également laissé entendre que parmi ses ravisseurs, il y avait beaucoup qui avaient échoué dans l'immigration clandestine, qui avaient soit voulu se rendre à Maroc, en Espagne, en Europe, mais qui sont revenus. Moi, je me dis que le tout militaire...
Un des téléspectateurs a justement évoqué la question du développement.
Voilà, c'était pour dire que l'opportunité peut-être pour les nouvelles autorités, c'est de ne pas s'apesantir sur le tout militaire, de voir également en termes de perspective pour les jeunes désœuvrés, déscolarisés, pour qu'on ne puisse pas assister à des enlèvements, ensuite à des libérations. Je pense qu'aujourd'hui, tous les ingrédients sont là de façon positive pour qu'on puisse aller de l'avant avec l'entrée des mouvements de l'ex-rébellion dans le gouvernement et puis cette dynamique locale qui est enclenchée, qu'il faudrait vraiment capitaliser dans l'avenir. Et je pense que le moment est très, très, très opportun pour qu'on trouve des réponses endogènes définitives quoi, à la crise du Mali.
Et justement, Moussa, parlant de capitaliser sur quelque chose, les manifestations qui ont conduit à la chute du régime d'Ibrahim Boubacar Keïta, c'est aussi la preuve d'un certain engagement de la société malienne. Sur la question sécuritaire, qu'est-ce qui peut changer selon vous? Qu'est-ce qui peut faire changer la donne avec la nouvelle situation?
Merci beaucoup pour cette question. Je crois qu'elle est très importante parce que ce serait très maladroit de voir de répondre à la situation sécuritaire avec une réponse sécuritaire. On l'a toujours dit au niveau de la Cantilita à travers nos programmes de contre l'extrémisme violent, c'est de trouver un moyen de mieux créer des dynamiques au sein des communautés. Parce que tous ceux qui sont comme groupés, importe leur l'objectif final, que ce soit le business, que ce soit la religion, que ce soit l'indépendance, ils arrivent quand même à recruter au sein de nos communautés. Et ils recrutent qui? Les jeunes de nos communautés. Donc aujourd'hui, quelqu'un qui, avant, on savait que les jeunes, ils essayaient beaucoup plus de sortir, mais au lieu de sortir, s'il peut avoir les moyens, tous ceux qui cherchent à travers les groupes armés, les recrutent et les payent, mais ils ne vont pas vouloir y aller. Du moment qu'il n'y a aucun contact avec l'État ni l'administration. Donc aujourd'hui, créer une dynamique pour faire en sorte que ces jeunes et surtout les communautés comprennent comment le développement va se passer, qui va apporter le développement et quand est-ce que le développement se passera. Donc ça leur donnera une idée, une visibilité étant chez eux de comprendre les dynamiques afin d'être engagés et comprendre. Donc si on arrive à travers cette approche à casser la chaîne de recrutement au niveau des groupes armés au sein des communautés, ça réduira plus la force la force combattante de ces groupes-là. Et aussi, la gouvernance a un rôle capital à jouer dans ce processus-là. On ne peut pas vouloir engager les jeunes. Et aussi, tandis qu'il y a un groupe ou une minorité qui détourne tout ce qui est bien destiné au développement, que ce soit local ou national. Et ces derniers mois ou ces dernières années, c'est ce que nous avons vu avec le régime. Et ce qui ne sera plus comme avant, c'est cette implication directe des populations par rapport à la gestion des affaires publiques. Et aujourd'hui, nous avons vu, quelques jours seulement après l'installation du gouvernement de transition, il y a les dossiers de deux personnes qui sont revenues sur la table. Ces deux personnes qui ont les dossiers se trouvent au niveau de la justice. Donc, quel qu'en soit l'issue, ça veut dire qu'il n'y a rien qui sera plus comme avant. Donc, pour moi, c'est une bonne manière, à travers une bonne gouvernance et l'engagement et la participation des citoyens, de comprendre que et ils font partie du mécanisme et non contre le système. Donc cela amènera à voir la chose comme pour eux-mêmes et non comme si je dois faire ça ou ne pas faire ça pour le gouvernement ou pour l'État.
Oui, Marc-André, Moussa et Sekou l'ont évoqué, hein, on évoque souvent la question de développement économique et social pour lutter contre ces groupes, une manière de lutter contre ces groupes, entre autres, mais comment investir dans ces régions instables si la paix et la sécurité n'y reviennent pas d'abord?
Ben c'est le débat de l'œuf et de la poule et on se le pose assez souvent. Mais ce qu'il faut juste voir, c'est que depuis 2012, on a cet argument-là qu'il faut absolument ramener la sécurité pour amener tout le reste. On a misé à certains moments sur le tout sécuritaire pour plusieurs raisons. Et ce qu'il faut avouer maintenant, c'est que cette stratégie-là n'a pas amené les dividendes qu'on croyait. La situation sécuritaire ne cesse de s'envenimer. Et là, aujourd'hui, on a une opportunité possiblement à ce que justement on se sorte de ce débat-là. Donc, même si c'est inévitable qu'il faut que, pour que l'État revienne, pour qu'on puisse réouvrir les écoles, pour qu'on puisse finalement voir les dividendes du développement, inévitable qu'il y ait une sécurité. Tout miser sur l'aspect sécuritaire et ce qui a essayé d'être, enfin, c'est un peu ce qu'on a essayé de faire jusqu'à date, n'a pas fonctionné. Donc, faut trouver le juste équilibre, mais maintenant de savoir que, faut savoir maintenant aussi que faut quand même miser sur cet aspect développement là. Et c'est justement à ce que les partenaires étrangers ont beaucoup poussé avec l'initiative pour le Sahel, avec pour le moment peu de dividendes sur le terrain.
D'accord. Alors, Moussa, on a l'Algérie, le Niger, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée, la Mauritanie, le Sénégal. Ce sont tous des pays frontaliers du Mali. Hein. Donc, l'enjeu sécuritaire va au-delà du Mali. Pensez-vous que les pays de la région s'impliquent comme il se doit dans la résolution de la crise malienne?
Ça, c'est actuellement une très bonne question. Je vais même élargir au-delà de ces pays aux différentes armées qui sont au Mali. Parce que j'ai eu la chance de dire à d'autres endroits qu'il est important aujourd'hui qu'on définisse qui est l'ennemi de qui et qui combat qui. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est extraordinaire, c'est que nous avons des pays qui sont amis des ennemis d'un autre pays. Donc, peu importe si on prend l'envergure de l'étendue où se trouvent ces gens, ils peuvent aller, je dirais, d'un point à un autre. C'est comme si un jeu simple. Moi, du pourchasse, je mets 3 jours, 4 jours, 5 jours à pourchasser un groupe. Et là où Marc-André doit l'arrêter et je ne sais pas, le mettre aux arrêts, le neutraliser, Marc le laisse passer parce qu'il ne se sent pas son ennemi à lui.
Vous parlez des zones de repli peut-être.
Vous comprenez, donc c'est moi l'ennemi à moi, donc pas l'ennemi de Marc. Donc du coup, c'est comme peine perdue. Et Marc aussi peut chasser quelqu'un jusqu'à devant ma porte, je le laisse rentrer parce que ce n'est pas mon ennemi, c'est l'ennemi de Marc. Donc il y a combien d'armées aujourd'hui qui interviennent sur le même théâtre d'opération? Ils répondent, qui répondent de quoi à qui? Si on n'arrive pas à répondre à ces questions-là, de dire aujourd'hui les forces Barkhane, c'est vrai, c'est une force qui couvre pratiquement beaucoup de pays, mais ils sont là pour qui et pourquoi? Ça, c'est une première question. Deuxième question, G5 Sahel, on sait qu'il y a une zone géographique qui a été donnée. Comment est-ce que l'intervention se passe? Les différentes armées nationales et les armées qui ne sont pas parties du G5 Sahel, comment coordonner tout ça pour qu'il y ait qui définit comme ennemi de la zone du Sahel? Ça, c'est une question. Parce qu'aujourd'hui, quand on prend la situation de la Mauritanie, c'est un autre cas. Et aujourd'hui, l'étendue, si on n'arrive pas à définir ces questions, et aujourd'hui, changer surtout d'interlocuteur. Parce que pour moi, le contexte évolue. Parce que la plupart des gens qui viennent au gouvernement au nom de la communauté, moi j'ai eu la chance de vivre là-bas, de vivre à Ménaka, de connaître réellement ce qui se passe sur le terrain. Il est important de changer les négociateurs autour de la table. Parce que la plupart des gens qui viennent négocier pour la fin de ces crises-là, ce sont les gens qui se positionnent plus. Qu'est-ce que je vais gagner après la crise?
Malheureusement, J'aurais bien aimé qu'on continue cette discussion. Nous arrivons au terme de ce Washington Forum. Je remercie tous nos invités et à vous qui nous avez suivis. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet et sur la page Facebook de VOA Afrique. Je remercie tous nos télépartenaires. Je dois d'ailleurs signaler que Sékou Tangaré travaille à Africable, qui est une de nos chaînes partenaires sur le continent. Je remercie toute l'équipe technique. À très bientôt. Au revoir.